Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comme les deuxièmes mardis de chaque mois. Dans l'émission générique Les chemins de traverse, c'est Et si on en parlait ? Alors, si on en parlait, vous savez qu'on parle de tout, hein ?
On va réduire un petit peu, là, on va parler de notre région du Rhône, et puis plus précisément de notre région du Beaujolais. Et on va vous présenter un gars du Beaujolais. Un gars du Beaujolais, voilà, qui a fait son histoire, ou presque toute son histoire, dans la région, parmi les vignes et tout ça. On va en faire le tour. Je reçois donc ce soir Yves Pélanda. Bonsoir Yves.
Bonjour Patrick.
Alors voilà, Yves Pélanda, c'est une vie multiple. Hein. On va en voir toutes les facettes. Une vie multiple et une vie d'engagement, on va dire aussi ça, une vie d'engagement, une vie aussi un petit peu de combat. On va voir tout ça et on va voir comment, tout simplement, un petit gars du Beaujolais, il a un beau chemin, il a un bon bilan, il a quelque chose à présenter, il a quelque chose à partager avec vous. Alors, Yves, donc, ma foi, tu es de Saint-Étienne-les-Oulières et tu es un personnage très connu de la région, on va dire, et plus particulièrement par l'association Le Printemps des Oulières qui fait cette grande rencontre. C'était la 10e cette année, je crois, la rencontre du Solex, la course de Solex et tout ça, mais on en parlera un petit peu plus tard. On va commencer, hein, comme tout portrait qui se respecte. On va commencer, par l'enfance. Alors, une enfance un petit peu mouvementée, hein, mouvementée au niveau familial, mais aussi mouvementée au niveau des lieux. Alors, il est né où ? Il est né à Lyon, mais il est né quand ? Il s'est passé quoi dans sa toute petite enfance, à Yves ?
Eh bien, écoutez, moi, je suis né le 11 décembre 1951, effectivement, à Lyon, 3e arrondissement. Et puis, j'ai habité à Montplaisir. Donc c'était déjà un peu prédestiné, joli quartier. Oui. Alors j'ai pas habité malheureusement longtemps, puisque mes parents divorçant, je me suis retrouvé très rapidement en pension
à l'âge de 1 an.
Où j'avais à peine un an, puisque je ne marchais pas. Mmh. Et donc je me suis retrouvé en pension à Arbussonnat, chez des vignerons qui m'ont accueilli. Il faisait famille d'accueil pour boucler les fins de mois. Et voilà, je me suis retrouvé donc dans cette famille extrêmement jeune.
Donc, c'est-à-dire en pension, mais ce n'était pas les pensions avec tout plein d'autres camarades. C'était une pension familiale, quoi. Hein.
C'était une pension familiale. On était deux enfants, entre guillemets, adoptés. Et j'ai passé les trois premières années de ma vie dans cette famille, ou quasiment en totalité, puisque ma maman ne pouvait pas venir souvent me chercher. Donc voilà, j'ai commencé ma vie dans ce beau Beaujolais.
Alors comment ça se passe dans les relations ? Parce que on est bien accueilli, on est aimé, on est protégé, on est nourri, blanchi, on fait des activités, on va dans les vignes déjà à cet âge-là, hein, c'est là aussi la passion des vignes. Comment ça se passe ces relations pour un petit enfant comme ça qui est déraciné quand même ?
Écoutez, ça se passe bien puisque finalement ces gens deviennent très rapidement la famille. Et puis en grandissant, dans cette famille il y avait une jeune fille qui s'est mariée avec un vigneron. Et ce vigneron qui avait une vingtaine d'années de plus que moi est rapidement devenu mon père adoptif. Et c'est un petit peu ce qui a orienté toute ma vie familiale et ma vie professionnelle, puisque j'ai pratiquement... je suis toujours revenu dans le Beaujolais chez eux. Et c'est là que j'ai forgé mon adolescence, en tout cas, et puis ma vie professionnelle, effectivement.
Voilà. Et donc, les aléas de la vie, hein, familiaux, de la vie familiale, font que des fois, il y a des rencontres qui mettent sur un chemin qui n'était pas du tout prédestiné, mais qui va être le chemin d'une longue vie après.
Ouais, une bien belle rencontre, en tout cas, pour moi.
Voilà. Alors, la rencontre avec les vignes, la rencontre avec l'amitié, on peut dire, et puis les liens familiaux qui sont créés, des nouveaux liens familiaux. Je pense que cette jeune fille de 20, qui avait 20 ans de plus que vous, je pense que ça a été quelqu'un d'important aussi.
C'est devenu ma seconde maman, mais c'est surtout son mari qui est devenu mon papa et qui m'a tout appris. Alors, ils avaient également des enfants que je considère comme mon frère et ma sœur. Et voilà, donc je suis rentré dans cette famille et je ne l'ai plus jamais quitté, même si j'ai fait quelques allers-retours à Lyon pour faire mes études primaires, puis ensuite en pension à L'Arbrelle, où là j'ai vécu des moments assez difficiles.
Parce que là, c'était une vraie pension.
C'était une vraie pension, et à l'âge de 11 ans, être déraciné comme ça, moi qui suis quand même assez sensible, ça a été une période difficile de ma vie.
Combien de temps dans cette pension ?
J'ai su rester 4 ans.
4 ans dans la pension. Voilà. C'était le collège en gros, quoi.
C'était, j'ai été jusqu'à la première. Après, j'ai réintégré Lyon puisque j'ai fait donc 3 années au lycée Ampère. Et là, je suis tombé dans la période mai 68. Donc, c'était une excellente période pour continuer à forger son caractère.
Voilà, donc, on peut dire que mai 68, même si pour vous, ça a été un peu rapide parce que vous êtes très vite revenu dans le Beaujolais après, c'était quand même là où, ben, ma foi, l'esprit revendicatif qui existait déjà. De par les difficultés peut-être au collège de l'Arbrel, c'est un petit peu amplifié.
Bah écoutez, en tout cas, moi j'étais parti pour aller manifester, mais ma maman a très rapidement pris peur et elle m'a expédié dans le Beaujolais à nouveau,
voilà.
Où j'ai pu militer, mais bon, c'était pas tout à fait la même chose. Donc...
Ouais, c'est vrai, c'était un peu plus calme. Alors, le bac, parce qu'il faut bien arriver au bac un jour.
Oh, une catastrophe. Puisque
c'était en 68.
C'était en 68, 70.
Ouais.
Donc ça a été une catastrophe, puisque bon, je travaillais pas beaucoup, j'étais en études scientifiques et ça me plaisait pas. Donc j'ai réussi brillamment mon bac avec 3,5 de moyenne en bac scientifique. Donc vous voyez que les choses commençaient assez mal.
Oui. Alors donc ce bac raté, qu'est-ce qu'on devient ?
Eh bien, on devient quand même qu'on a pas loin de 20 ans, donc on commence à réfléchir sérieusement à ce qui peut se passer. Et donc on en revient à la vigne, puisque j'avais appris à travailler la vigne avec mon second papa. Et donc j'ai décidé d'aller à Beaune, à la viticulture de Beaune.
On peut dire que la vigne et le Beaujolais, ça a toujours été le point d'accueil, ça a été le refuge, quoi, quelles que soient les circonstances. Bon, parce que problèmes familiaux, après problème mai 68, la maman a peur, après on rate son bac, tac, on retourne dans la... Il n'y a pas, quoi, c'était prédestiné.
Ouais, c'était prédestiné, puis j'étais tellement bien accueilli, y compris par les jeunes de mon âge du village, que bon, bah, c'est devenu ma vraie raison d'être. Et voilà, donc je suis allé à la viticulture, j'ai passé un bac professionnel.
Au lycée viticole de Beaune,
voilà.
Donc c'est pas n'importe lequel de lycée.
Non, c'était à l'époque, c'était certainement le lycée professionnel de la viticulture le plus important en France et qui faisait référence.
Ouais.
Et là, j'ai fait 2 années très brillantes, puisque là, ça me plaisait beaucoup. Et donc, j'ai été la première promotion de bac professionnel à spécialisation œnologie viticulture. Et donc, j'ai décroché ce diplôme avec brio, ce qui m'a permis, après l'armée, de rentrer dans la vie professionnelle extrêmement facilement.
D'accord. On peut dire que l'apprentissage, le fait, dans sa toute tendre jeunesse, d'être tout le temps dans les vignes, ça peut-être...
Oh ben oui, c'est clair que ça a orienté ça. Et puis à Beaune, ben, écoutez, j'étais un adolescent, mais j'étais un adolescent qui ne se laissait pas faire. Et donc, je me suis engagé très vite. J'étais déjà engagé dans les associations. Donc, j'étais bien évidemment délégué de classe. Et j'étais responsable du journal de la viticulture, où j'ai commencé à faire quelques petits esclandres avec un caractère bien trempé.
Voilà, toujours cette volonté d'avoir un regard perçant et précis sur des situations. On va voir que dans le monde de l'entreprise, ça a été aussi le cas un petit peu plus tard.
S'occuper des autres.
Voilà, hein, donc, et puis surtout, prendre la responsabilité de dire et de faire.
Ouais, ça, j'ai jamais eu peur de dire et jamais eu peur de faire.
Voilà. Alors, après, bon, ben, il faut bien trouver du travail, hein, parce que le service militaire est là, quoi, donc...
Bon, le service militaire, ça a été une formalité, hein, ça a été 10 mois à l'époque, qui sont très bien passés, puisque j'ai été chauffeur d'un colonel à Paris.
Ah, c'est planqué, on appelle ça.
En plus, c'était, oui, dans l'armée de l'air, donc non, j'ai passé le service militaire, ça n'a pas été un problème.
D'accord.
Et en revenant, j'ai tout de suite trouvé du travail dans le domaine de la viticulture.
La maison Paquet, une grande maison.
Alors,
du Beaujolais.
J'ai fait un stage chez Paquet pendant à peu près 3 mois. Et puis quand vraiment j'ai voulu travailler, Paquet ne pouvait pas m'embaucher.
Ouais.
Donc j'ai trouvé du travail au cellier du Beaujolais, qui était situé à Blasserey. Et là, ils m'ont embauché comme chef caviste.
Chef caviste, voilà. Alors, c'est toujours pareil, hein, quand Yves arrive quelque part, ça se passe pas toujours très bien. Chef caviste, mais il y avait un patron au-dessus, et là, bon, ben voilà.
Alors, il y avait un patron, et puis il y avait un contremaître qui s'occupait de l'embouteillage. Et c'est vrai que les relations n'ont pas été des plus calmes.
Pourquoi ? Pour des questions personnelles ou des questions professionnelles ?
Non, pour des questions professionnelles. Bon, avec le contremaître, je pense qu'il y avait un peu de jalousie parce qu'il voyait arriver un jeune qui prenait un peu trop d'importance.
Voilà.
Et puis le patron qui, lui, avait l'habitude de diriger les gens par le bout du nez, donc ça s'est pas vraiment passé comme ça.
Voilà.
Donc on a eu quelques petits malentendus, dirons-nous.
Voilà. Donc ça veut dire démission à la fin ?
Bah, démission non, j'ai eu la chance donc par ce travail-là de trouver en fait la société qui va m'embaucher pour le restant de ma vie professionnelle, puisque j'ai été embauché par la société Diverset qui vendait des produits de nettoyage, à qui j'achetais des produits de nettoyage, Et puis, avec un concours de circonstances, là encore, j'ai pu rentrer dans cette société le 1er avril, encore un poisson, le 1er avril 1974.
Ces produits de nettoyage, ils étaient destinés au monde viticole ?
Alors, ils étaient destinés en général à l'agroalimentaire.
Oui.
Et très rapidement, bien évidemment, on m'a spécialisé dans le monde viticole, puisqu'il D'accord. y avait une gamme de produits spécialisés pour la viticulture.
Cette entreprise, c'était une grosse entreprise.
Bah, à l'époque, quand je suis rentré, on était plus de 600 personnes en France. Il y avait 2-3 usines de production. Il y avait un siège social à Paris. Donc moi, je suis rentré comme petit représentant dans le secteur du...
Un VRP, quoi.
Un VRP dans le secteur du Rhône. Mais ça a duré 2 ans et très rapidement, compte tenu des résultats obtenus, j'ai pris du galon.
D'accord, du galon. Évidemment, ça s'est pas bien passé.
Alors si, ça, bon, au niveau professionnel, ça s'est très bien passé, puisque j'ai toujours eu de bons résultats et j'ai pu progresser dans cette société. Mais bon, il s'est trouvé que, là encore, par un concours de circonstances, je me suis intéressé au comité d'entreprise.
Intéressé, on peut dire même créé.
Non, il existait,
mais... Il était moribond.
Mais bon, le comité, c'était surtout pour organiser les arbres de Noël et puis les voyages. Et bon, nous, ça ne nous convenait pas.
Parce qu'il n'y avait pas de syndicat dans cette boîte.
Non, chez Diversa, il n'y avait pas de syndicat.
Ouais, ouais.
Et donc, on était un certain nombre à dire, bon, bah, c'est pas ça le comité, on va essayer d'en faire autre chose. Et donc, on a fait un coup de force et on a réussi à prendre les contrôles du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise de Diversey. Alors ça, c'était à peu près en 78-80, oui. Et c'est là que les choses sérieuses ont commencé.
Parce que vous êtes vite aperçu qu'il y avait des problèmes dans la gestion de cette entreprise par rapport au droit du travail.
Bah, écoutez, on a eu surtout la bonne idée de faire une formation par un personnage extraordinaire qui est le frère de Sagnier, qui est
le monsieur de la télévision.
Ah ouais, un type extraordinaire et qui nous a vraiment incité à...
Formation syndicale.
Au départ, c'était une formation comité d'entreprise.
Oui.
Mais bon, lui, c'était un syndicaliste dans l'homme et il nous a montré qu'on se faisait avoir sur plusieurs points. Donc, eh bien, comme on ne se laisse pas faire, on a pris les choses en main. Et effectivement, on a mené des combats épiques.
Ces plusieurs points étaient importants, hein, parce que c'était quand même le non-respect des conventions collectives.
Alors ça, c'était le point principal.
Le salaire,
et les congés payés.
Qui n'étaient pas payés correctement, comme dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs.
Et donc,
ça aussi un peu de temps en temps. C'est à la mode de ne pas payer les gens. Hein.
Bah, pour les payer correctement, c'est facile quand personne ne rouspète. D'ailleurs, avec cette histoire-là, on a réussi à avoir la peau du DG de Diversey France et on a eu la peau du DRH de l'époque, puisqu'il s'était complètement trompé et compromis dans cette affaire.
Alors, donc, ça veut dire 2 ans de lutte, ça veut dire les prud'hommes.
Ça veut dire les prud'hommes. On a réussi à emmener une cinquantaine de personnes aux prud'hommes, ce qui était extraordinaire, parce qu'il fallait bouger les troupes. Hein, les gens ont très peur. Mais Sagné nous a dit qu'il ne faut jamais avoir peur. Quand on est dans son bon droit, on n'a pas à avoir peur.
Voilà.
Et en général, ça se passe bien.
Et il
a eu raison.
Ça s'est bien passé. Bon. Alors, en ce moment, il est dans l'air du temps de baver sur le conseil des prud'hommes, etc., voire de limiter sa puissance et sa représentation. Cette époque-là, ben, ma foi, les prud'hommes gagnaient.
Ben, les prud'hommes gagnaient, mais surtout, les comités d'entreprise avaient un poids important.
Qu'ils n'ont plus.
Nous, on était vraiment un contrepoids dans la gestion d'entreprise, puisque, en fait, c'était un directeur, hein, c'était pas un patron. Puisque le patron, c'était une grosse boîte, c'était à l'origine une société qui venait de Pechinet. Ensuite, on a appartenu à une brasserie canadienne. Ensuite, on a appartenu à une Unilever. Donc, nous, on avait des gens comme nous, hein, qui étaient des salariés.
Déjà,
comme
le
nous,
rachat comme des nous. Entreprises françaises par les sociétés étrangères était déjà en route.
Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, à chaque fois, ils essayaient de raboter les choses. Donc, nous, à chaque fois, on a réussi à obtenir plus que ce qu'on avait avant par des combats importants.
Donc, cette victoire, ça a été le réajustement, bien entendu, de...
Ah oui.
par rapport aux conventions collectives, mais surtout ce qui est important, c'est que avec FR être actif, donc il y a des gens qui ont touché un max.
On a eu un patron à l'époque qui était espagnol, qui a voulu venir s'en mêler et faire le malin, et qui nous a dit si vous avez raison, on payera depuis l'origine du problème en ce qui concerne les coefficients. Il a bien fait, ça lui a coûté 2 millions de francs, et ça a rapporté à certaines personnes qui n'étaient pourtant pas engagées dans la lutte, mais après bon, c'est la loi. Il y en a qui sont partis avec 270 000 francs sans avoir rien fait et sans dire merci d'ailleurs, mais ça fait partie des choses de la vie.
Voilà, l'intérêt général, c'est toujours de se battre pour tout le monde, même si tout le monde monde ne participe pas.
Ah ouais, moi ça c'était pas pour moi, parce que bon, j'étais très peu concerné dans ces, ouais, dans ces domaines-là, et mes collègues non plus. Mais bon, voilà, nous on a toujours aimé que les choses soient faites dans le bon droit.
Alors, petit à petit, quand même, ça a amené à la création d'une section syndicale.
Bah, c'est au moment où on a été racheté par Unilever, puisque Unilever nous a repris. Nous, on était 300, eux, ils étaient 50. Et il fallait donc refaire un comité d'entreprise. Et à l'époque, si vous n'étiez pas syndiqué, vous n'aviez pas le droit de vous présenter au premier tour.
Voilà.
Donc, pour arriver à garder le contrôle du comité d'entreprise, on a donc créé la section syndicale qui n'existait pas chez Unilever et qui était la CFTC.
Alors CFTC, il y a une définition que vous avez qui est particulière.
Bon, nous, on a très rapidement compris que c'était la Confédération française des travailleurs cons, parce que franchement, on leur a donné beaucoup d'argent, et là, c'est là où j'ai vu que les syndicats, ça ne servait vraiment pas à grand-chose.
Voilà. Ok, enfin, ça ne sert pas à grand-chose.
Dans l'entreprise, hein, 100 ans.
Voilà. Donc déception par rapport à l'action syndicale. Malgré tout, les problèmes avec les patrons continuent. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut bien partir, il faut quitter tout ce monde, quoi.
Bah, écoutez, moi je suis quand même resté 37 ans dans cette société.
D'accord.
Hein. Donc à la fin, il me restait 6 mois à faire, et la société allait être vendue à une grosse entreprise américaine, à des fonds de pension. Mmh. Et là, les gens qui étaient autour de moi ont compris que j'allais pas laisser faire les choses, parce que j'ai très vite vu que le seul intérêt de ces gens-là, c'était d'habiller la mariée pour qu'elle soit belle et de déshabiller les salariés.
Mmh,
donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ben, ils m'ont proposé donc une rupture conventionnelle. Mmh. Ce qui fait que j'ai quitté, moi, la société Diverset 6 mois avant ma retraite effective.
Voilà. Et donc maintenant, à la retraite, depuis quand ?
Ben, je suis à la retraite depuis 2011. Depuis le 1er juin 2011.
D'accord.
Et je m'en porte très bien.
Oui. Mais comme on ne veut pas rester sans rien faire, on fait un peu de taxi ?
Oh, alors j'avais bien préparé ma retraite. Hein. Donc effectivement, j'avais un gendre à l'époque, j'ai un gendre qui à l'époque avait une société de taxi à Saint-Jean-d'Ardière et qui cherchait des chauffeurs pour le week-end puisqu'il n'en trouvait pas. Et comme j'adore conduire, donc j'ai commencé à travailler pour lui. Et puis, ben, je travaille toujours dans cette société qui maintenant appartient à Maisonneuve.
D'accord.
Et j'en suis très heureux, parce que pour moi, c'est un très bon défoulement.
Donc le taxi, mais il y a un autre moyen de transport qui accompagne actuellement la vie d'Yves Pélanda, qu'on va voir dans un moment. C'est ce fameux Solex que l'on va écouter.
Non, Solex pétarade, tout le monde dit nous bade. Et quand on va au stade, à fune sur la rocade, on est les plus heureux. C'est quoi ces vieux? C'est les trompes à Agathe. Al Solex c'est joyeux. Et on roule Al Solex. Et on roule Al Solex avec nos bérets basques. Tu nous reconnais pas, on ne porte pas de casque. Et si tu nous crois pas, alors ouvre les yeux. À quoi on va passer comme des fous furieux.
Au coup de sifflet final, on a l'instinct animal. Vers les voitures, on court vers nos montures. Il faut vite rentrer, on a les dents qui sèchent. Et pour les soulager, une mousse bien fraîche.
Et on roule Al Solex. Et on roule Al Solex avec nos bérets basques. Tu nous reconnaîtras, on porte pas de casque. Et si tu nous crois pas, alors ouvre les yeux. À quoi on va passer comme des fous furieux.
Alors la vigilance sur le porte-bagages, les tenders c'est en danse. Abreuver la machine, le plein de Solexine. Sinon faut pédaler pour bien en avancer.
Et on roule Al Solex. Et on roule Al Solex avec nos bérets basques. Tu nous reconnais pas, on ne porte pas de casque. Et si tu nous crois pas, alors ouvre les yeux. À quoi on va passer.
Vous êtes sur la rocade là-haut.
Et on roule Al Solex avec nos bérets basques. Tu nous reconnais pas, on ne porte pas de casque. Et si tu nous crois pas, alors ouvre les yeux. À quoi on va passer comme des fous furieux. Et on roule Al Solex avec nos bérets basques. Tu nous reconnais pas, on ne porte pas de
qu'on se quitte avec le groupe Faskaga. Faskaga, bon, ça parle pour... et ça s'appelait « Et si on roule en Solex ?» Voilà, alors pourquoi Solex ? Parce que, bon, ben, ma foi, engagement citoyen, on a vu, toujours vouloir prendre des responsabilités. Yves Pelanda, donc, je reçois aujourd'hui, aussi un fort engagement dans la vie associative, on va dire, même plus que ça. Hein. On a vu déjà que dans les lycées, bon, c'était le cas, hein, responsable de classe, on a vu création de comités d'entreprise, création d'un syndicat, etc. Ça n'allait pas s'arrêter comme ça, surtout en ayant comme cheval de bataille, on va dire, l'intérêt général et puis la responsabilité. Alors voilà, quand même, avant d'arriver vraiment à l'associatif, quand même une petite volonté de s'engager localement en politique.
Absolument. J'ai été conseiller municipal pendant 13 années à Saint-Étienne-des-Oulières et j'ai failli aller un peu plus loin, mais bon...
Oui.
J'ai failli aller un peu plus loin, mais bon, finalement, ça s'est pas fait. Je voulais monter une liste aux dernières élections.
Toujours à Saint-Étienne.
Toujours à Saint-Étienne. Et puis, finalement, je voulais m'entendre avec celui qui voulait prendre la mairie, qui était donc Gilles Dutel. Et puis, au dernier moment, on s'est pas vraiment entendu. Donc, je me suis retiré de cette affaire-là. Et j'en suis franchement pas mécontent, parce que je sais que si j'avais été là, je me serais engagé à fond, comme j'ai l'habitude de le faire. Ouais. Et ça m'aurait empêché de faire d'autres activités qui me conviennent bien autant.
Qu'il en va détailler. Alors, la politique, c'est comme l'approche du syndicalisme. Jamais un vrai engagement, soit avec une carte, avec quelque chose. Hein, pas la politique intérêt local, comme
ouais,
on va...
Ouais, ouais. Voilà. Avec des idées sur tout et des idées sur rien, mais voilà pas d'engagement fort politique, non.
Voilà. Alors bon, ben, cette volonté de travailler pour l'intérêt général, ça a amené Yves Pelanda donc à créer et à participer à une multitude, on va dire, une multitude de structures et d'associations. Alors le foot un petit peu ?
Ouais, le foot un petit peu, mais ça c'était quand j'étais un peu plus jeune. J'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 45 ans.
Ouais.
Puis après, ayant des enfants, je me suis occupé d'eux. Et je me suis investi dans les clubs où il jouait. Mais bon, le foot, ça m'a rapidement découragé.
Pourquoi ? L'image qu'il a actuellement ?
Bah, écoutez, il nous est arrivé des mésaventures avec les enfants en allant jouer dans certains quartiers un peu chauds qui m'ont fait penser que... Enfin, c'était pas ça ma tasse de thé. Et donc, j'ai abandonné.
Voilà, les boules aussi ?
Alors les boules, alors ça, bon, dès que j'ai été à la retraite, je me suis mis effectivement à rejouer à la Lyonnaise, puisque c'est quand même prenant et que j'avais pas le temps avant. Et puis très rapidement, l'amicale boule des Oulières, cherchant un trésorier, ils m'ont demandé de remplir cette fonction. Et puis maintenant, depuis l'année dernière, je suis le président de l'association de l'amicale boule des Oulières.
Oui, mais pas que, il y a eu aussi quand même président de la boule lyonnaise.
Alors ça, c'est la boule lyonnaise. Hein.
C'est
la boule lyonnaise.
Ouais. C'est pas la pétanque, faut bien
non,
le dire.
Bah, je joue à la pétanque, mais je ne suis pas investi dans le club de pétanque ou les clubs de pétanque locaux. Enfin, sachant que la lyonnaise, ça prend beaucoup de temps, hein, puisque les parties durent au minimum 2 heures. Donc voilà, il faut du temps pour jouer à ça.
Ouais.
Et comme j'étais déjà dans des structures au niveau de la boule lyonnaise, le secteur Beaujolais m'a demandé si je voulais les aider. Et donc, je suis également dans le bureau du secteur Beaujolais Boubiste.
Voilà, donc on ne reste pas sans rien faire. Hein, on n'a pas le temps de s'embêter. Et puis alors, bien entendu, on va dire la cerise sur le gâteau, hein, c'est cette association du Printemps des Oulières. Alors... ça a commencé tout bêtement avec une course de Solex.
C'est une très belle aventure, franchement, qui a commencé en 2009, donc j'étais encore pas à la retraite, j'étais conseiller municipal. Et en fait, le conseil municipal cherchait un moyen d'animer notre village, un peu différemment de ce qui existe couramment, puisque dans le village, il y a beaucoup d'animations, mais qui sont liées aux conscrits. Donc en fait, les gens se connaissent quand ils font partie de la même classe, ils ne se connaissent pas trop quand...
D'accord, en créer quelque chose qui
donc, on a voulu regroupe. Et qui fédère un petit peu tout le monde, un petit peu comme l'a fait la commune d'Audenan, hein, avec sa fête du paradis.
Oui.
Et on cherchait un thème, et on a eu, par connaissance, on a su qu'il y avait une course de Solex dans l'Ain, à Farin, qui était abandonnée. Et on a des gens, la Solexine de Blacé, qui sont venus nous voir en nous incitant à reprendre le flambeau.
Voilà.
Et ça a été le début de cette belle aventure.
Voilà, alors création de l'association.
Hein, bien sûr.
Quelques personnes au début, bien entendu, pas nombreuses, j'imagine.
Au début, on n'était pas très nombreux, on était une dizaine.
Oui, maintenant, beaucoup de monde de bénévoles pour participer à l'organisation.
Maintenant, au bureau, on est 20 personnes. Au conseil d'administration, pardon, on est 20 personnes. Et puis, quand on fait la fête, on a environ 200 à 250 bénévoles. puisque la fête, c'est quand même 4 jours de travail. Hein. Faut tout installer le samedi, il faut le jour de la fête, il faut tenir les buvettes.
Et puis, c'est pas qu'une fête, parce qu'il y avait aussi une foire artisanale.
Alors, au début, on avait la foire artisanale, et puis maintenant, on a un peu évolué. Et ces derniers temps, comme l'année dernière, on avait donc la course de Solex, on avait une exposition de véhicules anciens, des démonstrations de trial, des démonstrations de ci et de là. Enfin, de quoi occuper beaucoup de monde. Et c'est une très belle fête. Hein,
très belle fête qui ramène du monde.
Bah, écoutez, l'année dernière, à vue d'œil, parce que c'est difficile à compter, on a eu 4 à 5 000 personnes qui sont passées dans la journée.
À Saint-Étienne-des-Oulières.
Il faut dire qu'on s'en donne la peine, hein, parce qu'on fait beaucoup de publicité aussi.
Voilà.
Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je remercie Radio Calade qui, tous les ans, nous accueille sur leur antenne.
C'est notre travail de développer le territoire avec les gens du cru. Alors, bon, ben, voilà, c'est tout ça fait... Bon, j'ai oublié, hein, la confrérie des Blancs Beaujolais. Et alors la confrérie des copains.
Ouais, ça c'est une anecdote. La confrérie du Blanc Beaujolais, ça a été créé à Paris il y a 20 ans par des copains au cours de réunion. On faisait un peu des animations. Puis un jour j'ai eu l'idée de créer cette confrérie. Puis finalement ça a pris de l'importance. 20 ans après, elle existe toujours. On fêtera le 20e anniversaire l'année prochaine et on doit avoir quelque chose comme 50 ou 61 intronisés à travers le monde entier d'ailleurs. Donc voilà. Bon, c'est une confrérie qui se prend pas au sérieux du tout.
Bah oui.
Et c'est vraiment pour nous amuser nous. Voilà. Mais bon, tous les ans on a notre fête le jour des primeurs et on fête nos intronisations le jour des primeurs.
Voilà. Alors tout ça, ça fait quand même beaucoup d'activités entre le taxi, etc. Puis il y a la famille aussi, il y a tout ça. Hein. Il y a quand même 2 enfants, je crois.
Bah écoute, moi j'ai 2 grands-enfants de mon premier mariage. Ma nouvelle femme a 2 enfants de son premier mariage. Et puis on a un enfant en commun qui a eu la bonne idée de prendre des vignes. Donc aujourd'hui, il a 12 hectares de vignes. Maintenant, il espère pouvoir en avoir 15 ou 16 rapidement. Alors ça occupe aussi un peu les parents, puisque ce jeune homme n'a que 23 ans et qu'il faut un peu l'aider pour qu'il puisse mettre en route son exploitation. Et croyez-moi qu'aujourd'hui, pour des jeunes, ben, c'est pas simple.
C'est pas simple.
Parce que franchement, ils ont pas beaucoup d'aide.
Ouais.
On aide des gens à rien faire et on aide pas beaucoup les gens qui travaillent. Et ça, c'est un de mes combats actuels, parce que je trouve ça politiquement très déplacé.
Des aides et de la réglementation.
Oh, on est envahi de réglementation, on est envahi, embêté par les fonctionnaires. Je sais même pas comment décrire ça. Mais pour un jeune, moi, il me le dit souvent, il me dit, moi, je ferais mieux d'être au chômage, hein, je me casserais pas la tête et j'y gagnerais autant d'argent, puisqu'aujourd'hui, il se dégage pas un salaire.
Voilà, il y a quelqu'un qui a traversé la rue, il sait ce qu'il veut faire, il veut le faire, mais on l'aide pas pour le faire.
Non, on lui coupe la peau du pied, au contraire.
Ouais.
Et bon, enfin, je sais pas, Macron, il faut qu'il descende de son piédestal et qu'il vienne nous voir, on va lui expliquer la vraie vie.
D'accord. Alors bon, tout ça, ça fait beaucoup de choses, et donc, cette association du Printemps des Oulières, elle est en plein bouleversement. Je crois qu'il y a eu une dissolution lundi dernier.
Absolument. On a dissous l'association parce que j'avais 5 membres importants du bureau qui désiraient arrêter. Hein. C'est des gens qui ont 70 ans et plus et qui ont assez donné. Et donc, on voulait intégrer des jeunes qui ont créé à Saint-Étienne-des-Oulières la confrérie des copains. On voulait les intégrer avec nous. Et la seule solution qu'on ait trouvée pour pouvoir les intégrer correctement, c'est en fait de recréer une nouvelle association.
D'accord.
Mais de dissoudre, nous, notre association, afin de pouvoir faire ce qu'on veut des fonds,
voilà,
une
donc,
partie des fonds qu'on a récupérés.
Ramener du sang neuf et du sang frais.
Alors, on va essayer de ramener du sang neuf et du sang frais. On va mettre dans la corbeille de la mariée quand même 10 000 euros, ce qui n'est pas négligeable.
Ben, bien sûr.
Et on va surtout s'investir auprès des jeunes pendant au moins les 2 années qui viennent pour leur permettre de prendre en main cette association. On va garder la course de Solex pendant ces 2 années, puis après,
ils verront
s'ils veulent faire autre chose. Mais ils ont beaucoup d'idées, donc c'est encourageant, et ils sont une bonne dizaine à vouloir s'investir avec nous, donc c'est bien.
Voilà, donc dissolution récente et assemblée constitutive le 10 décembre.
Absolument, ouverte à tous les gens qui veulent des Oulières, qui veulent s'investir dans leur commune.
Donc le 10 décembre, il y a un appel aux volontaires qui est fait, hein, pour rejoindre ces associations. Et cette nouvelle association est faire, ma foi, durer toutes les animations sur Saint-Étienne-des-Oulières. Yves Pellanda, voilà, on va se quitter. Merci bien d'avoir fait ce petit tour dans ces 70 années en terre beaujolaise et montrer que l'engagement, l'investissement, etc., ça enrichit un homme et ça enrichit ses liens avec les autres. Merci beaucoup Yves, à bientôt.
Merci Patrick de votre accueil qui est excellent.